Hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Underground.
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Et ce soir, c'est la dernière émission, la toute dernière de Last, The Very Last One. Et de cette année, je retiens une personne. Une personne avec une voix magnifique, une passion pour la musique. Une personne qui a vu plus de concerts que la personne qui a vu plus de concerts que tu connais. Et c'est Philippe Tessier, le légendaire. Philippe Tessier, on t'a entendu toute l'année parler des artistes, parler aux artistes, parler comme un artiste, parce que pour moi, tu es un artiste. Et c'est pour ça que tu es le dernier invité de cette saison. Comment ça va ?
Ça va très très bien. Je suis à la fois un peu triste parce que c'est la dernière, mais je suis surtout très heureux d'être avec toi pour ces deux dernières heures sur Europe.
Soyons joyeux d'avoir passé une super année sur Europe 1. On a Kevin Smith avec nous, il y a Nicolas qui est dans le coin aussi. On a passé une année à rencontrer des gens super ici, il y a des gens super sympas.
Exactement.
Et c'est super d'avoir été dans le même studio que Coluche. Franchement.
C'est absolument incroyable. Cette radio est une radio de légende, quoi qu'on dise. Et c'est vrai qu'en plus de faire de la radio dans ceux du Coluche, il y a un signe quand même.
Il y a quelque chose qui me parle en tout cas. Philippe, t'es venu avec une playlist.
Ma playlist.
Ta playlist. Et ce
j'en
soir,
profite, je suis fier.
On va en profiter.
Je précise, Mouloud, à ton invitation. Hein.
À mon invitation. Et ce soir, on va profiter de ta playlist pour te découvrir parce que la musique raconte les gens. C'est ce qu'on a souvent l'habitude de dire, tous les deux.
C'est vrai.
Et tout d'abord, tu as commencé avec Simply Red. Pourquoi avoir choisi ce morceau, Phil ?
Il se trouve que lorsque j'ai commencé à faire de la radio dans les années 80.
Tu as commencé où ?
À Lyon, sur une radio qui s'appelle Radio Scoop, qui existe toujours d'ailleurs, que je salue.
On salue tous les Lyonnais et Radio Scoop, évidemment.
On adore les Lyonnais. Ouais. C'est vrai que la pop anglaise était très en vogue, comme Simple Minds, les Killing Joke, les Cure. Et moi, je suis un fan de pop. Et dès l'instant où j'ai écouté ce groupe,
Simply Red,
pour ne pas les citer, j'ai eu un vrai coup de cœur à la fois pour la voix et le groupe en lui-même. À savoir que moi, je cours, c'est le cas de dire, après les concerts. Je les ai beaucoup vus sur scène. Je crois que le chanteur Mick Knall est quelqu'un d'assez exceptionnel dans son physique déjà, et puis surtout pas avec une voix absolument somptueuse.
On est dans les années 80, à Lyon. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la radio ? Comment est-ce que tu as eu le virus, en fait ? Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as pris le micro, Philippe ?
Alors, je me souviens surtout pourquoi j'ai voulu faire de la radio lorsque tu as 16 ans et 17 ans, que tu partages la chambre avec ton frère, tu écoutes de la musique, tu fais le con, et tu découvres quelque chose qui s'appelle la FM. Et là, tu as un son absolument incroyable. Mais quand tu dis à tes parents, voilà, j'ai envie d'aller faire de la radio, mon père m'a dit, va surtout faire tes études et puis ensuite on reparlera.
Il voulait que tu fasses quoi comme études ?
Moi, je voulais faire lettres, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et comme je suis affreusement gourmand, je suis allé faire une école hôtelière.
Mais attends, c'est bien, parce qu'en terminale L, c'est des gens qui ont des sarouels et qui fument des roulés, t'es pas comme ça.
Bon, peut-être. Je suis allé donc faire cette école.
Mais d'accord, c'est ça les terminales L, ils sont relous, ils écrivent des mots sur les arbres.
Bon. Oui, il ne se passait pas grand-chose, je m'ennuyais beaucoup. Bref, comme j'étais gourmand, j'ai fait cette école, j'ai passé mes examens et mon père a eu cette phrase géniale. Mes examens que j'ai eus, et à ce moment-là, il m'a dit « Fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive, tu auras toujours un travail. »
Et là, tu toques à la porte de la radio.
Et à partir de ce moment-là, tous les mercredis, à Lyon, à cette époque, Radio Monte-Carlo venait faire ses émissions en direct de Lyon avec un certain Jean-Pierre Foucault. Il se trouve que j'étais un tout petit peu malin, j'ai réussi à m'introduire dans l'équipe d'RMC, et l'émission se faisait en deux parties, une partie en public, une deuxième partie dans les studios d'RMC. J'ai pu accéder aux studios d'RMC et j'ai vu un génie, un grand homme de radio.
Jean-Pierre Foucault ?
Jean-Pierre Foucault.
Alors moi, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Foucault quelques fois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est réellement la personne qui m'a le plus impressionné. Quand j'ai vu travailler Jean-Pierre Foucault, j'ai compris énormément de choses sur ce métier et j'ai compris tout ce qu'il fallait faire et mettre en œuvre pour donner au public ce que le public voulait savoir, en fait. Et que Jean-Pierre Foucault, il a une telle capacité d'empathie qu'il est capable, et c'est un instinct incroyable, hein, et c'est du travail, de savoir à quel moment qui veut quoi. Et pour moi, il y a un autre animateur qui a ça, c'est Cyril Hanouna.
Exact.
Cette capacité de savoir à quel moment il faut parler de quoi.
Mais tu sais, il y a quelque chose d'incroyable. À l'époque, il faisait une émission que tu connais sûrement qui s'appelait le Kit ou Double avec Zappy Max qui, lui, était en région.
Mais tu te rends compte de tous les concepts qu'il a présentés, Jean-Pierre Foucault ?
Mais c'est une folie. Il a fait toute la grille des RMC,
déjà.
Il
a tout fait.
Et c'est un homme de radio. C'est son ADN, il l'a toujours dit. Même si après, sa carrière a dévié sur la télévision. Mais Jean-Pierre Foucault reste un homme de radio, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que j'ai eu une claque absolument monumentale. Et tout de suite, j'ai enchaîné sur Europe. À l'époque, il y avait quelqu'un que j'aimais, que j'aime toujours énormément, qui hélas nous a quittés il y a quelques années, qui est un garçon qui a un talent fou, qui s'appelle Jean-Loup Lafont, qui présentait une émission incroyable sur la musique qui s'appelait Basket, qui révolutionnait la musique à l'époque. Et c'est vrai que ces gens-là m'ont donné une envie folle de faire de la radio. Et j'ai pu en faire très rapidement.
Et en tout cas, on est réunis au micro d'Europe 1 Radio Mythique. C'était Simply Red sur Europe 1. C'est la dernière, la toute dernière, The Very Last One de Verveine Underground. Et Philippe Tessier nous fait sa playlist. On a parlé de tes débuts à la radio.
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles ton premier choc musical ?
Alors, mon premier choc musical, oui, c'est U2, mais je me rappelle surtout mon premier concert. Mmh. On est en 1983, il y a un peu plus de 30 ans. J'ai la chance, mes parents m'autorisent à aller voir un concert qui se passe au Palais des Sports de Lyon, un chanteur français qui s'appelle Julien Clerc, et je me rappelle toujours, j'avais payé ma place avec mes économies, 53 francs, c'est te dire, ça fait moins de 10 euros, et je me suis...
53 francs maintenant, c'est quoi ? C'est un kebab, une canette ?
Oui, et encore. Ouais,
et encore.
Et encore. Et là, j'ai découvert Julien Clerc qui chantait déjà tous ces grands classiques, et je me suis dit, c'est vrai que c'est là que ça se passe.
Tu te rappelles l'époque où les frites merguez étaient 15 francs à Châtelet ou pas ?
Je me rappelle.
On a connu ça.
On avait un mal de ventre absolument incroyable une fois qu'on avait mangé ces sandwichs. Mais tout ça est vraiment très très drôle. Mais mon vrai choc musical, jusqu'à encore 2 ou 3 ans lors de leur dernière tournée, ça reste et ça restera U2, quoi qu'il arrive.
Alors moi, un choc musical sur scène, j'ai eu la chance de le voir 2 fois. C'était 2 fois dans la même semaine. Même, je l'ai vu 3 fois. C'est Prince. Je l'ai vu au Grand Palais,
ouais.
Je l'ai vu au Grand Journal.
Ah, t'as eu la chance de voir le show du Grand Palais.
Et je l'ai vu à la Cigale faire un after jusqu'à 3h du matin.
Alors, l'avantage de Prince, c'est que, le concert de 20h et le concert public sur lesquels on achète nos places, et systématiquement, lorsqu'il était à Paris, il allait soit au New Morning ou dans d'autres endroits un peu secrets, ou pas d'ailleurs, où il faisait ce qu'on appelle un bœuf et il jouait pendant des heures et des heures.
Et c'était à la Cigale, il est arrivé en pantoufle sur scène. Voilà. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais... Tu te rends compte que le mec en pantoufle, Prince, il a plus de classe que nous avec les plus folles chaussures de notre vie.
C'est une évidence. Et ne parlons pas de Prince lorsqu'il est sur scène avec son groupe, New Power Generation, avec sa batteuse derrière lui qui était absolument extraordinaire. Et surtout lorsqu'il prenait une guitare et qu'il partait dans des solos absolument de folie.
Et là, Philippe Tessier a choisi un morceau de Prince. Et c'est ce que tout le monde dit quand il croise Philippe Tessier. « I wanna be your lover ». Vous êtes toujours dans Verveine Underground, ne bougez pas, on continue à parler avec Philippe Tessier dans un instant.
Verveine Underground. Mouloud Achour, 20h-22h.
Verveine Underground.
Underground
sur Europe 1.
On est toujours dans Verveine Underground et avec Philippe Tessier. Donc toi, tout a commencé à Lyon dans les années 80.
Ouais.
Tu as fait de la radio.
Oui.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Philippe ? Raconte-moi tout.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, quand on fait de la radio... On regarde un petit peu ce qui se passe autour. Et puis, il y avait un autre média qui m'intéressait beaucoup, qui était la presse écrite. J'ai donc eu la chance d'écrire pour Lyon Poche, qui existe toujours, qui est le Pariscope lyonnais, où je m'occupais de cinéma. Et puis, une fois que tu fais de la radio, une fois que tu fais de la presse, tu as peut-être envie d'aller un petit peu plus loin et de faire de la télé. Et à l'époque, quelqu'un que tu connais bien, je crois que c'est ton patron maintenant, un garçon qui s'appelle Gérald Brice-Viret, qui est le directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, travaillait à Annecy, sur 8 Mont-Blanc. On s'est rencontrés et parfois, dans cet univers, tu as des coups de cœur. Il se trouve qu'on s'est très vite, très entendu. Et il m'a dit, voilà, j'arrive dans quelques mois à Lyon. J'aimerais que tu viennes faire de la télévision avec moi sur TLM, sur Télé Lyon Métropole.
Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. Et je suis venu, je n'avais jamais fait de télévision. J'ai mis ma belle chemise, ma petite veste. Et je suis venu parler déjà de musique à l'époque, c'est dire.
Et comment ça s'est passé, tes premiers pas à la télévision, lorsque le rouge de la caméra s'est annulé ? Philippe Tessier.
Je pensais avoir le trac, je l'avais sûrement intérieurement, mais comme j'ai fait l'émission avec Gérald, qui était quelqu'un qui manipulait ça d'une manière assez simple, finalement je me suis retrouvé très à l'aise, comme un peu ce soir avec toi. C'est-à-dire qu'il y avait un micro, la seule différence c'est qu'il y avait une caméra en face. Mais comme c'était un vrai dialogue humain, j'ai pas vu passer ça. Et finalement, j'ai pris un vrai plaisir à en faire pendant 5-6 ans maintenant.
Est-ce que tu es plus à l'aise derrière le micro ou dans la vie?
Quoi qu'il arrive, les deux sont différents. Parce que même quand tu es à la radio, j'aime pas ce mot, tu es quelque part en représentation. Mais ce que je voulais dire, c'est que la radio, pour moi, reste un média exceptionnel, extraordinaire. D'instant, et tu es tout de suite dans l'immédiat avec la radio. C'est un peu une partie de la vie, simplement que tu parles avec un casque et un micro, et tu peux raconter des choses, et qui arrivent tout de suite dans le cœur ou pas des gens.
Est-ce que c'est un brise timidité, le fait d'avoir le micro?
Ça, c'est sûr.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Mais moi, je le définis autrement. C'est-à-dire que timide, je le suis. Je dirais peut-être plutôt réservé. C'est mon cas. J'ai un peu de mal à m'ouvrir, à parler de moi. Je préfère faire parler les gens. Mais moi, dans un studio, je me sens bien. C'est-à-dire que, voilà, on est entre nous. Il y a un technicien qui s'occupe de réaliser, de s'occuper de prendre le son de notre voix. Mais je suis tout seul en studio avec toi. Je n'ai pas grand-chose à faire, finalement. Si ce n'est parler de ma passion, c'est ça qui est extraordinaire.
Kevin is in the kitchen, comme on dit dans les livres anglais. Et Kevin is going to envoyer the next track. Donald Fagen, choisi par Philippe Tessier. On vient d'écouter un nouveau morceau de la playlist de Philippe Tessier dans Verben Underground sur Europe 1. C'est la dernière. Et j'ai décidé de passer cette soirée avec ma rencontre ultime à Europe 1, c'est Philippe Tessier.
Mais t'es sûr de ça? Mais pourquoi tu dis ça?
Parce que je suis fou. Donald Fagen, explique-moi.
Ah, Donald Fagen, c'est une évidence. C'est la côte ouest, c'est donc les États-Unis. Une des premières fois où j'ai atterri à Los Angeles, qu'est-ce qu'on fait? Comme tous les blaireaux, on prend une décapotable, on met Kiss FM à fond, et là on écoute. Et une des premières chansons avec peut-être Christopher Cross, c'était Donald Fagen, IGY. Donc c'est marqué à vie.
À quelle occasion t'étais allé à Los Angeles pour la première fois?
Si je te dis pour aller voir des concerts, tu vas me dire ce garçon est vraiment fou, mais je pense que c'était pour aller voir des concerts. Plus exactement, non. Je travaillais à l'époque à Scoop, comme je te l'ai dit, à Lyon. Et on faisait, et tu sais de quoi, Charles, puisque tu en as fait aussi beaucoup de voyages de presse.
Et j'en ai fait aucun dans ma vie.
C'est pas vrai?
Aucun.
Bon, moi j'en ai fait beaucoup parce que je programmais cette radio, donc c'est vrai que les maisons de disques régulièrement nous invitaient pour rencontrer des artistes. Ils m'avaient proposé.
Moi, on m'invitait pas, j'étais jaloux.
Bah pas du tout, mais on t'invite maintenant.
Non plus.
Non plus.
Non.
Bon, bah je t'amènerai avec moi, mais en fait tu connais tout le monde, donc t'as.
Mais promis que non.
Mais si, Moulin.
Mais tu sais, en ce moment moi je joue à Elden Ring, donc j'ai plus de.
Bon, tu vas venir avec moi sur les prochains concerts. Bref, pour revenir à Los Angeles, non, j'étais parti à LA pendant 3 jours pour rencontrer Janet Jackson. Ça fait chic de dire ça, mais c'était la vérité. Et Janet Jackson, qui est quelqu'un de très introverti.
Attends, on va faire une petite pause.
Oui.
T'étais parti sur une phrase. Janet Jackson est quelqu'un de. Explique-moi du début à la fin, comment ça va Janet, ça va la famille. Raconte-moi la rencontre avec Janet Jackson, c'est quoi le contexte, qu'est-ce que vous êtes dit, comment elle était habillée, comment elle t'a regardé. Je veux tout savoir, dans quel endroit, quel hôtel, la clim, pas la clim, qu'est-ce qu'on a commandé, un thé vert, un thé noir, un café, un décan, un americano, je veux tout savoir.
Bon.
Là, tout gazeuse.
Janet Jackson, je ne sais pas si tu regardes en ce moment la série sur elle, est quelqu'un de très réservé.
Mais le documentaire sur MyCanal, sur Janet Jackson, c'est la pépite de MyCanal en ce moment.
C'est magnifique. Et c'est quelqu'un, tu l'as compris, qui est très réservé, très timide, qui a peur de parler de son travail. Bref, elle accepte de rencontrer une quinzaine de programmateurs de radio en France. On se dit, bon, c'est plutôt sympa, ça se passe à Los Angeles. Et on arrive, on ne savait rien. Voilà, on vous met dans un hôtel, vous profitez de la piscine. Le soir à 19h, on vient vous chercher dans des vannes et on vous emmène dans un endroit secret. Pas de problème. Le soir arrive, il est 20h. Je vais te raconter.
Toi, quand on te dit on t'emmène dans un endroit secret, tu réponds pas de problème.
Ben oui, mais j'adore ça. Et je vais te raconter, puisque tu veux tout savoir. Tu veux vraiment que je te raconte tout?
Pas de problème.
Bon. Il se trouve qu'on descend dans un très bel hôtel et je me dis, j'ai pas envie d'aller visiter Los Angeles, je suis fatigué de l'avion, etc. Je monte sur le toit de cet hôtel avec une immense piscine extérieure. Je suis tout seul et tout d'un coup, je vois un monsieur qui arrive, pas très grand, les cheveux frisés.
Je dirais le Sunset Tower.
Non, c'était le Four Seasons.
Oh.
Et je vois ce monsieur arriver dans la piscine et je dis, je connais cet homme. Bref, on nage, je nage, bonjour, bonjour, vous allez bien, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait bon, vous êtes là de passage, oui. Et je me dis, je rêve, Philippe, ça n'est pas lui. J'étais en train de nager avec Roger Daltrey, des Who, qui était seul, qui le soir même donnait un concert à Los Angeles. Ça, c'est la première surprise. Donc le soir arrive, nous quittons l'hôtel pour rejoindre ces fameux vannes et on arrive dans une espèce d'usine sur la Cienega Boulevard, pas très loin de l'hôtel. Et là, on nous explique que Janet Jackson a voulu nous rencontrer dans les anciens studios de cinéma de Charlie Chaplin.
D'accord.
Qui sont des studios absolument incroyables. On a donc écouté l'album qui devait être l'album Written Nation. Et à la fin de cet album, elle est arrivée toute simple, toute petite, toute frêle, toute timide, pour venir discuter avec nous. Et c'est vrai que souvent, les grands artistes sont souvent les plus simples. Et c'est vrai qu'elle était absolument adorable, charmante. Elle a discuté avec nous, elle nous a parlé de sa passion qui est la musique, de faire de la musique et d'aller même plus loin à travers les tournées, l'image. C'était une passionnée d'image et j'ai découvert quelqu'un de vraiment charmant.
Et ce qui est dingue, c'est que cet album, Wisdom and Nation, c'est l'album qui a changé sa vie en fait à Janet Jackson.
Et il faut dire les choses, je pense que par la suite, les albums ont existé de Janet. Soyons honnêtes, ils n'étaient pas tous très réussis. Celui-ci était absolument exceptionnel.
C'était la première fois qu'elle s'entourait d'un duo de producteurs mythiques, qui font partie des inventeurs de ce qu'on appelle le New Jack Swing. Ils ont également ensuite travaillé pour Michael.
Exact.
Et surtout, Janet Jackson, en fait, elle est arrivée avec une imagerie, la casquette, la tenue militaire,
le cuir. Exact.
Le cuir. Et quand tu racontes ça, on a l'impression que c'est une époque qui est totalement révolue. À l'époque, les albums, c'était des enjeux extrêmement importants.
Très importants. Et deux ans après, j'ai eu la chance d'aller la voir une fois de plus à Lyon. Le spectacle qu'elle nous proposait était un vrai conte d'enfant.
Dans la piscine, il y avait qui à Lyon?
Non, il n'y avait personne à Lyon, je te rassure. Et c'était un vrai conte pour enfants. Le décor de la scène était un livre où elle racontait son histoire. C'était absolument superbe.
Et bien là, c'est l'histoire de Philippe Tessier qu'on raconte ce soir dans Verben Underground sur Europe 1. C'est la dernière, donc j'ai décidé de confier le micro à ma personne préférée. Et on écoute Janet Jackson avec When I Think of You. On vient d'écouter Janet Jackson, When I Think of You, choisi par Philippe Tessier, notre invité pour la dernière de Verben Underground. Et là, tu as choisi AA avec Move to Memphis. Pourquoi AA? Alors déjà, comment ça se prononce?
AA, tout simplement.
Même en anglais?
Bah oui, AA, Move to Memphis.
Il n'y a pas le H muet? AA?
Non, je crois pas, c'est plutôt A. Mais tu sais, dans cette époque, il y a beaucoup de groupes qui débarquent. Ça marche, ça marche pas, t'as un coup de cœur, t'as pas coup de cœur. Moi, en tant que programmateur, j'avais bien évidemment, comme tout le monde, adoré Take On Me. Et Move to Memphis m'avait beaucoup plu. Déjà, le clip était extraordinaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce clip en noir et blanc avec une certaine Béatrice Dalle qui jouait.
Le clip crayonné en animation.
À l'intérieur. Sublime. Alors, ça, c'était Take On Me. Et Move to Memphis, il y avait vraiment une atmosphère. Et puis, AA remplissait. Et ce qui est intéressant, j'aime beaucoup ça. Je trouve que de plus en plus, d'ailleurs, les groupes des années 80. Continuent de revenir et.
Ils jouent encore.
Pour faire des tournées. Et ils jouent encore. Et ce qu'il faut savoir. Même s'ils viennent rarement sur Paris, je les ai vus il y a 15 jours dans un Zénith bourré à craquer, je précise. Mais Zénith, remplit encore des salles, notamment en Allemagne, des salles qui font 10, 15 000 personnes. Puisque tu veux des infos, je te
Mais
dis
je
tout.
Je ne veux que des infos.
Le 31 juillet prochain à Los Angeles, l'Orchestre symphonique de Los Angeles propose un concert unique avec AA, Hollywood Bowl, pour info, la salle qui est en plein air, contient 17 000 personnes et c'est complet, bien sûr.
Et alors, on va passer à quelque chose d'assez important, c'est qu'on va écouter AA. Oui. Tu sais, sur Europe 1, il y a un pouvoir incroyable, c'est que c'est une radio qui peut téléporter n'importe qui. Et là, on va se téléporter à Memphis et on écoute AA et j'embrasse Pauline, qui est juste là, dans la console, pour la dernière de Urban Underground. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous, t'es quelqu'un de formidable et t'as toujours été là pour nous soutenir. Je t'embrasse très très fort, Pauline. Et c'est à toi qu'on dédie ce morceau de AA. On vient d'écouter AA avec le morceau Move to Memphis. Et là, on attaque un immense monument de la chanson française, de la chanson tout court, c'est Jean-Jacques Goldman, choisi par Philippe Tessier. Et le morceau, c'est Famille. Ça pourrait être un titre de PNL. Pourquoi avoir choisi ce morceau?
Jean-Jacques Goldman est un, comme tu l'as dit, c'est plus qu'un monument. Même si depuis quelques années, il s'occupe de lui à Londres, je pense qu'il a bien raison. Il a tout fait et tout ce qu'il a fait, il l'a réussi. Depuis le début de sa carrière avec Quand la musique est bonne jusqu'au dernier album, ça a été un sans faute. Pourquoi cette chanson ? Elle est toute simple. Au-delà de mon métier et des quelques amitiés qu'on peut avoir dans cet univers, je pense que le plus important, et je crois que tu es un petit peu pareil, c'est ce qu'on appelle la base. Et la base, c'est la famille. Je trouve que ce texte de Goldman est d'une justesse absolument incroyable. Il suffit de l'écouter pour comprendre pourquoi j'ai choisi ce morceau qui s'appelle Famille.
Que la famille. Tout de suite, on écoute Jean-Jacques Goldman, choisi par Philippe Tessier sur Europe 1. On vient d'écouter Famille de Jean-Jacques Goldman et on continue avec la playlist de Philippe Tessier et on reste dans le thème familial avec deux frères, pas les deux frères qu'on connaît, hein, du 91, mais les deux frères Gallagher et le morceau Wonderwall. Ce morceau, ce qui est dingue, c'est que il y a 364 jours dans l'année où je l'adore et il y a un jour où je le déteste, c'est le jour de la fête de la musique.
Ah bon,
parce qu'il y a toujours un relou qui chante Wonderwall quelque part.
Vers 4h du matin.
Vers même pas.
Quand
tu essaies
de dormir.
Voilà, tout le temps. Donc j'ai envie d'envoyer des messages à Jack Lang. Pourquoi t'as inventé cette fête de merde ? Mais voilà, je rigole. La fête de la musique, c'est un moment incroyable où tout le monde peut s'exprimer. Mais des fois, il y a des gens qui.
Heureusement qu'on l'a en plus.
Heureusement qu'on l'a et c'est une exception française, comme la sécurité sociale. Mais il y a des gens qui forcent avec les reprises d'Oasis. Donc Oasis, c'est bon, pas tout le temps.
C'est pas tout le temps bon, mais mon seul regret finalement, c'est que Liam et Noël Gallagher se soient séparés. 2009, août 2009, clash dans le backstage de Rock en Seine. Les frères Gallagher s'engueulent et décident de ne pas monter sur scène alors que pas loin de 10 000 spectateurs les attendent pour ce concert unique qui n'aura pas lieu. Je crois que tout est dit. Ils s'aiment, mais ils se détestent à la fois. Et peut-être que Oasis est un des rares groupes que je suis allé voir sur scène avec un son qui n'est pas fort, qui est affreusement fort. Quand je dis affreusement fort, attention, ça veut dire que la qualité est bien sûr au rendez-vous. Et je trouve que la présence de Liam et Noël sur scène formait un duo hors pair.
C'est marrant, j'aimerais te poser une question, parce qu'il y a deux groupes comme ça qui sont passés à côté de leur destin. Je trouve que c'est Nirvana, pour les raisons qu'on connaît, et la mort de Kurt Cobain,
bien sûr.
Et Oasis.
Oui.
Oasis aurait pu être les rois du monde.
Je suis d'accord. Peut-être qu'à un moment donné, je pense que leur ego, il l'expliquait d'ailleurs dans un magnifique portrait qu'on a pu voir sur Arte, je crois qu'ils avaient envie de tester une aventure en solo, c'est ce qu'ils font, chacun de leur côté, avec plus ou moins de succès. Mais je crois qu'à un moment donné, les égos des deux frères Gallagher étaient plus forts que la réussite en groupe. Et ce qui fait que peut-être que le groupe a splitté à un moment donné où il fallait qu'il splitte.
Et est-ce que tu ne penses pas que c'est leur rivalité de frères qui donne cette énergie dans les morceaux, en fait ?
Si.
Cette rivalité est déjà là, en fait. C'est Rémus et Romulus.
C'est une évidence. C'est une évidence. Le A va avec le B et le B va avec le A. Les deux allaient ensemble. Il suffisait d'aller les voir, que ce soit au Zénith ou dans n'importe quelle salle de France. Il se passait vraiment quelque chose.
On écoute tout de suite Oasis Wonderwall et on épargne tous les relous qui vous chantent Tuesday. Allez, on vient d'écouter Oasis Wonderwall, choisi par Philippe Tessier. On vient de prendre une grosse claque, je dirais même une super trempe pour parler du groupe qui arrive.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Je suis vraiment désolé à l'Association des Jeux de mots de France pour tout ce que je viens de dire. Vraiment,
mais non,
pardonnez-moi,
c'est bien, ça passe.
Je mérite d'aller en prison pour cette vanne. Désolé.
Mais d'ailleurs, Mouloud, tu remarques que depuis le début, on est très années 80, hein, entre 80 et 90, mais en tout cas, on reste dans les années 80.
Mais c'est intéressant de parler de ces années-là, parce que pour moi, elles sont intemporelles. Tu sais, dans Verve Underground, on vient de passer une saison vraiment merveilleuse sur Europe 1. Et je remercie encore tous les gens de la radio d'Europe 1. Et on a mélangé les années 80, 90, 2000, 2010, 2020.
Mais chanteurs français.
1940. Mais vraiment, on a passé des trucs, mais complètement fous. Et pour moi, ces années-là, elles ont quelque chose d'intemporel, plus que les autres.
Oui, c'est sûr. Et je pense aussi que ces groupes, que ces artistes nous ont marqués à un moment donné ou à un autre, que ce soit à travers nos carrières professionnelles, nos vies, tout simplement. Et c'est des moments chocs et c'est des moments qu'on n'oublie pas. J'aime beaucoup, lorsque j'écoute un morceau, me dire « mais oui, j'étais à tel endroit, j'avais rencontré telle personne ou j'avais tel problème à cette époque dans mon boulot », je sais que tous ces morceaux que je passe ce soir, et on en parlera tout à l'heure peut-être avec un autre artiste un peu plus drôle qui s'appelle Rick Astley, et je vous expliquerai pourquoi, mais j'aime bien ces repères.
Tu sais, j'ai aussi une explication de pourquoi ces époques-là sont incroyables, parce que c'est des époques de découverte. Là, maintenant qu'on est sur le digital, avec un ordinateur, bien un sûr. Téléphone, tu peux faire la musique que tu veux. Et à l'époque,
ce qui est bien aussi, hein, ce qui est bien aussi,
ce qui est magnifique.
J'adore aller me promener sur Spotify et aller choisir ma musique ou découvrir de la musique.
Mais aujourd'hui, quand on produit de la musique, on a à peu près, je sais pas, la capacité de mettre des pistes infinies pour faire un morceau. À l'époque, c'était pas comme ça, c'était des grosses consoles avec des pistes prédéfinies. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu une grande innovation dans la musique, il y a eu un grand groupe qui en est sorti parce qu'il y a eu un grand producteur qui a bidouillé, qui a fait parfois des accidents, comme Giorgio Moroder, Phil Spector. Enfin, ouais. Il y a toujours eu des gens comme ça, qui étaient des génies du studio, qui ont profité de ces petites innovations pour faire des morceaux. Et Supertramp avait ce son-là, c'était des geeks de studio.
Ouais, et je vais te dire autre chose, c'est que j'aurais pu choisir et faire quelque chose d'un peu plus facile comme de Logical Song, mais si on a le temps, si tu veux, on va juste demander à la régie qu'ils nous mettent juste l'intro de ce morceau et la voix de Rick Davies derrière qui est absolument exceptionnelle avec Supertramp.
Et bah, tu sais ce qu'on va faire ? On va l'écouter en entier.
Génial.
From Now On, Supertramp sur Europe 1. On vient d'écouter Supertramp et avant d'enchaîner avec le Flash et la deuxième partie de l'émission...
Il faut que je te demande une faveur.
Mais toutes les faveurs que tu veux.
Tu sais quel est mon rêve ?
De dormir ?
Non, pas du tout.
C'est quoi ?
Tu sais quel est
mon
rêve ?
Tu veux rencontrer Rick Astley ?
Non, c'est déjà fait. Tu sais quel est mon rêve ?
Attends.
Non, mais je vais te dire, puisque tu me demandes des scoops. Je rêve, en plus c'est la dernière ce soir, tu peux pas me dire non, d'annoncer le Flash de 21h. Mais c'est mon rêve.
Eh ben, tu sais quoi ? On écoute Rick Astley et on revient.
Génial, à tout de suite.